L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ce radio-journal. Au sommaire, un incendie parti de Founoubé au quartier Mossala à Kadutu s'est propagé à plusieurs avenues jusqu'à Bouolokacha dans la commune de Bagira l'avant-midi de ce jeudi 10 septembre. Le bilan provisoire est lourd, 27 morts et plus de 500 maisons détruites par les flammes. Des élèves surpris en plein cours figurent parmi les victimes. Familles endeuillées et sinistrées se retrouvent désormais face aux ruines de leur maison. Radio Mandeléo vous propose un reportage dès le début de ce radio-journal. Également dans cette édition, 18,6% seulement, c'est le niveau de mise en œuvre du processus de paix de Doha, 13 mois après son lancement, entre Kinshasa et l'AFCM23. Sur 350 engagements évalués, seuls 65 ont été réalisés. Méfiance entre les parties, poursuite des hostilités et lenteur des négociations figurent parmi les principaux obstacles relevés dans un nouveau rapport d'évaluation publié par les baromètres des accords de paix en Afrique. La technique est assurée par Alain Zar au microphone pour la présentation. Je suis Omer Moudekereza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Et vous l'avez suivi au sommaire de cette édition, plus de 27 personnes, la majorité des élèves, sont mortes dans un gigantesque incendie qui s'est déclaré dans l'avant-midi de jeudi 10 septembre 2026 sur avenue Kacheke 3 au quartier Bouolokacha dans la commune de Bagira. Cet incendie a également réduit en cendres plus de 500 maisons et d'autres détruites pour limiter la propagation du feu. De Bouolokacha où il s'est rendu pour le compte de Radio Mandeléo, Alain Kabika nous propose ses reportages.
Il est 11h15. Nous sommes sur avenue Kacheke 3 au quartier Bouolokacha. Mains à la joue et larmes aux yeux, des centaines d'habitants, notamment les victimes, les femmes ayant perdu leurs enfants et des biens matériels, affichent un visage plein de tristesse, chagrin et désolation. Dans les lots des infrastructures frappées, deux écoles dont l'école primaire Mogo et Furaha. Ici, il n'en reste rien semblable à un établissement scolaire. Tout est à terre. Dans ces écoles, les élèves ont été surpris par les flammes. Dans la débandade qui s'en est suivie, des dizaines d'entre eux ont été asphyxiés et d'autres blessés, explique un témoin incapable de retenir ses larmes. C'est grâce aux efforts des habitants que certains sont extraits mais déjà affaiblis par la force des flammes. Transférés dans l'une des structures médicales pour des soins d'urgence, des dizaines d'entre eux n'ont pas survécu, indique le chef des quartiers Bouolokacha. Jusqu'à 15h des jeudi 10 septembre 2026, au moins 27 corps ont été recensés avant leur transfert à la morgue grâce aux ambulances mobilisées pour ces faire. D'autres élèves seraient dans les comas alors que d'autres suivent des traitements appropriés. Survenus aux environs des 8h, il a fallu moins d'une heure pour voir l'immensité des dégâts causés par ces feux, indique le chef du quartier Bouolokacha, Mugaru Kabudouge Patrice.
Le feu est venu de Mossala, dans la commune de Kadou. Le bilan, plus de 500 maisons calcinées, 27 morts. 27 morts, c'est un bilan provisoire. Le reste, nous attendons pour voir s'il y a des gens qui sont dans les maisons. On va voir. Nous voyons que beaucoup de maisons qui sont calcinées, beaucoup de personnes restent à l'extérieur.
Les morts, comment ils ont été évacués?
Les ambulances de l'hôpital général chez Boulambo, celui de chez Omer, ils ont fait un bon travail, malgré tout.
De l'autre côté, plusieurs parents courant dans tous les sens étaient toujours à la recherche de leurs enfants qui ne répondaient pas à l'appel. Pour les sinistrés, C'est la fin de plusieurs années d'économie, mais aussi des espoirs nourris à travers leurs enfants décédés tragiquement. Ils demandent aux autorités et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. L'un d'eux en parle.
On ne sait plus d'où viendra de l'aide en faveur des sinistrés. On ne sait plus même où aller. Que les autorités agissent en urgence, surtout en faveur des familles dont leurs enfants sont décédés et d'autres blessés. Plusieurs enfants sont même disparus de leur famille jusqu'à présent. Nous attendons une visite des autorités.
Dans cette douleur, les sinistrés se préparent déjà à passer leur première nuit à la Belle Étoile, loin du luxe et de leur maison, mais aussi à faire les deuils de leurs proches disparus dans cette catastrophe.
Reportage signé à Lankabika. Entre-temps, l'AFC M23 fait état de 24 morts et 29 personnes prises en charge dans des structures médicales à la suite du grave incendie qui a ravagé plusieurs habitations hier jeudi 10 septembre 2026 à Bukavu. Dans un communiqué signé par Laurence Kanyuka, chef du département de la communication et porte-parole de l'AFC M23, le mouvement précise que 19 filles et 5 garçons figurent parmi les personnes décédées. Parmi les 29 blessés pris en charge, 21 sont en soins intensifs, dont 17 à l'hôpital général de Kadutu et 4 à l'hôpital général provincial de Bukavu. Le communiqué indique que les flammes parties du quartier Chimpunda dans la commune de Kadutu se sont également propagées jusqu'à 2 établissements scolaires. L'AFCM 23 affirme avoir mobilisé une assistance en faveur des sinistrés et appelle la population au calme et à la vigilance en attendant les conclusions des investigations destinées à déterminer l'origine de l'incendie. Dans le même chapitre, les autorités de l'AFCM 23 annoncent les premières mesures prise à la suite de cet incendie meurtrier à Bukavu. La cellule de communication du gouvernorat de province du Sud-Kivu rapporte que le gouverneur sous la FSM 23, Patrick Boussou-Bangui, a interrompu sa mission d'itinérance à Calais et Massissi pour regagner le chef-lieu de la province. Il a instruit le conseil provincial de sécurité sous la conduite du vice-gouverneur Dunia Masumbu Kobwenge-Dux de se réunir en urgence. Un comité de crise a par ailleurs été mis en place. Il doit notamment identifier les familles des victimes et des responsables des établissements scolaires concernés, mais aussi assurer le suivi de la prise en charge des blessés. De leur côté, les autorités politico-militaires de l'AFCM 23 se sont rendues sur les lieux du drame avant de visiter les blessés à l'hôpital général de référence de Bukavu. Le gouvernorat annonce également l'organisation des obsèques dignes pour les victimes et la prise en charge des blessés. La cellule de communication rapporte enfin que l'AFCM 23 déplore la persistance des incendies à Bukavu et met en cause les constructions anarchiques qu'elle présente comme un héritage du pouvoir de Kinshasa. Et toujours dans le chapitre des réactions, l'incendie meurtrier qui a ravagé deux écoles au quartier Chimpunda dans la commune de Kadutu a suscité une vague d'émotions et de réactions à travers la classe politique congolaise et sociale. L'opposant Moïse Katumbi a dénoncé un drame absolu et appelé à des mesures urgentes pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a quant à lui fustigé une gouvernance défaillante et refusé que ces drames soient relégué au rang d'un fait divers. L'ancien président de l'Assemblée nationale et député élu de la ville de Bukavu, Vital Kamerhe, a réagi également au drame de Chimpunda en adressant ses condoléances aux familles des victimes de cet incendie. De son côté, le professeur Batsi Lukwebo a pointé du doigt le manque de voies d'accès qui complique l'intervention des véhicules anti-incendie, plaidant pour une urgence d'urbanisation de la ville. Pendant ce temps, l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO, section du Sud-Kivu, demande aux autorités d'intervenir en urgence pour venir en aide aux familles des victimes et des sinistrés. Son président, Augustin Batandi, appelle à une réponse rapide face à cette situation. Par contre, l'acteur de la société civile, Sami Jean Takimbula, condamne la multiplication des incendies dans la ville de Bukavu et appelle les habitants à redoubler de prudence afin de prévenir d'autres drames. Ces réactions convergent toutes vers un même constat, l'urgence d'une prise en charge des victimes et des solutions structurelles pour une ville régulièrement frappée par ces types de sinistres. Et dans le même chapitre, un autre incendie a ravagé hier jeudi 10 septembre plusieurs habitations dans le sous-village de Kabungu, dans le groupement de Moudoussa en territoire de Kabari. L'alerte a été donnée par François Mubalama, président de la société civile Force Vive du groupement de Moudoussa. Il fait état de 21 maisons réduites en cendres, tandis que plus d'une dizaine d'autres ont été démolies pour empêcher la propagation des flammes. Plusieurs biens de valeur ont également été détruits, laissant de nombreuses familles sinistrées. Face à ces nouveaux drames, François Mubalama a
appelle les autorités et les organisations humanitaires à venir en aide aux victimes. Il invite également la population à renforcer la vigilance, notamment autour des installations électriques et autres sources potentielles d'incendies. Et dans le même chapitre, la série interminable des incendies à Bukavu requiert des mesures de pouvoir public contraignantes, sinon la ville risque de connaître d'autres tragédies aux conséquences incalculables. Ainsi réagit le député national Moudékéré Zanamegabe Olive à la suite de l'incendie déclaré hier jeudi 10 septembre au quartier Buolokacha en commune de Bagira et au quartier Chimpunda en commune de Kadutu. Selon lui, la ville de Bukavu est à reconstruire en intégrant les préalables d'urbanisation requis, à savoir les servitudes, les sentiers, les voies d'évacuation ou des passages d'ambulances et ou véhicules anti-incendie. Il propose une réflexion profonde autour de l'avenir de Bukavu face aux incendies. Olive Moudékéréza.
Nous disons encore nos compassions et nos condoléances, mais jusqu'à quand il faut que la ville soit bien reconstruite, que l'État prenne des mesures, qu'on fait des distinctes. On doit savoir où sont les habitations, où sont les zones d'habitation, le marché, les stades, les écoles doivent être séparés des maisons d'habitation pour éviter des risques. Aucune ville peut accepter qu'on continue à construire au centre-ville, partout, des maisons en planches, en étage, parce que c'est des risques qu'on prenne. Que cette ville de Bukavu soit vraiment prise en compte par les autorités à tous les niveaux. On est dans la guerre, on revient, c'est des inondations, c'est des éboulements, c'est du feu, et chaque jour des morts. Regarde comment les gens sont transportés, les secours, les hôpitaux, les ambulances, l'accès, tout ça fait partie de ce qu'on doit prendre comme des mesures. Quelle est la sécurité, quelles sont les dispositions prises en cas de danger, quels sont les secours.
Vous venez donc là de suivre Olive Moudékéréza, député national élu de la ville de Bukavu. Changeons de chapitre à présent. Disons que la consultation des services spécialisés en soins de santé mentale est l'une des options idéales pour réduire les cas de suicide dans la ville de Bukavu, dont la récurrence peut être justifiée par plusieurs facteurs, comme les incendies et autres catastrophes naturelles. C'est ce que fait savoir le psychologue clinicien Idriss Baninde, qui invite les habitants de Bukavu à se rendre auprès des experts en institutions de santé mentale, autant qu'ils le font pour les hôpitaux ordinaires en cas de pathologie de santé physique. Et lance ce message à l'occasion de la journée international de la prévention du suicide, célébré ce jeudi 10 septembre 2026. Selon Idriss Baninde, des événements traumatiques comme les incendies se comptent par plusieurs dizaines dans la ville de Bukavu et peuvent provoquer des troubles psychologiques de nature à pousser les victimes au suicide. Il invite la communauté entière à rester auprès des personnes ayant été au contact avec les événements traumatiques en les écoutant profondément. En cas de nécessité, il propose de joindre le centre psychiatrique de Bukavu ou les départements de santé mentale installés déjà opérationnels dans plusieurs hôpitaux de Bukavu pour un accompagnement approprié. Idriss Baninde.
C'est une occasion pour nous de pouvoir encourager les communautés à pouvoir consulter des services spécialisés en soins de santé mentale, surtout dans la ville de Bukavu. Des hôpitaux sont là qui sont spécialisés en soins de santé mentale. C'est facile d'accéder à ces soins, mais c'est plus facile pour la population qui est déjà confrontée à une crise humanitaire accrue, aux conflits armés, aux incendies et d'autres catastrophes naturelles. Donc, sont là les facteurs susceptibles de pouvoir pousser la personne à sombrer dans une détresse psychologique. Et quand la personne est accompagnée, quand la personne à quelqu'un sur qui la personne peut compter, ça permet de réduire la stigmatisation et la personne qui est en difficulté peut se sentir ouverte à s'exprimer, que ce soit devant ses membres de la famille, que ce soit devant ses collègues de service, ses camarades de classe. Un message pour moi à cette occasion, c'est d'appeler toutes les organisations humanitaires qui œuvrent dans la promotion de bien-être mental, dans la résilience communautaire, de pouvoir accompagner, que ce soit les campagnes de sensibilisation qui peuvent être mises en place, que les organisations humanitaires puissent accompagner ces initiatives, surtout dans la lutte contre les suicides.
C'était là Idriss Baninde au micro de Radio Maïndélé. Et dans le même registre, le suicide n'a pas sa source dans la malédiction. Il s'agit d'un acte lié à une souffrance souvent psychologique, émotionnelle ou sociale, qui peut devenir tellement intense que la personne ne voit plus d'autre issue. C'est un phénomène complexe souvent lié à une grande détresse psychologique et à plusieurs facteurs de risque. N'est-ce pas Hélène Boudjiriri?
C'est ce que fait savoir Lumière Singaï, coordinatrice de l'association Stop Suicide au Sud Kivu, à l'occasion de la célébration de la journée de la prévention du suicide, jeudi 10 septembre 2026. Pour elle, la communauté devrait abandonner les préjugés autour du suicide et accompagner les personnes qui tentent d'y faire recours afin de les aider à comprendre leur situation et s'en sortir. Lumière Singaï recommande la tolérance envers les autres et surtout avoir l'esprit d'écoute sans juger lorsqu'une personne traverse un moment difficile. Elle demande d'observer les personnes autour de nous car tout se manifeste à travers les comportements. Lumière Singaï.
Beaucoup de gens pensent que l'acte de se suicider, c'est une malédiction. Or, c'est un fait qui existe. Personne ne peut vouloir mettre fin à sa vie, mais il pense mettre fin aux douleurs, à l'accumulation de problèmes, à l'accumulation des échecs. Et le mieux pour prévenir le suicide, c'est d'en parler. Mais aussi les proches, soyons attentifs aux changements, aux comportements des autres. Vous pouvez voir quelqu'un s'isoler, ça doit interpeller les gens. Il y a des gens qui sont devenus trop dépressifs, anxieux, et à chaque situation il est irrité. Vous lui dites bonjour et il vous demande bonjour pourquoi. Vous lui dites de manger, il refuse de manger. Normalement, vous devez l'approcher. Si c'est difficile pour vous de l'approcher, appelez un professionnel de santé mentale. Soyez attentif, le pasteur, la famille, parce que la famille et les proches jouent un rôle très important dans la prévention des suicides.
De mars à juin 2026, 152 tentatives de suicide, dont 7 réussies, ont été répertoriées au sud Kivu. Les zones ayant enregistré plus de cas sont les territoires de Walungu et la commune de Bagira dans la ville de Bukavu, fait savoir la coordinatrice de l'association Stop Suicide.
Une radio, une fréquence. La radio Maïndéléo sur la 88.8 et la 91.7 MHz, toujours à votre service. Radio Maïndéléo, la radio du développement.
La suite de cette édition du journal, comme d'ailleurs annoncé au sommaire, 13 mois après son lancement, le processus de paix de Doha entre le gouvernement congolais et l'AFCM-23 n'a atteint que 18,6% de mise en œuvre de ses engagements. C'est ce que révèlent les rapports d'évaluation de la mise en œuvre des engagements du dit processus publié par le baromètre des accords de paix en Afrique. Un rapport qui concerne la période allant du mois de juillet 2025 à août 2026. Les contenus avec Expedi Kialou.
Sur les 350 points évalués, 65 seulement ont été réalisés, indique ce rapport qui analyse trois principaux instruments, à savoir le mécanisme de libération des détenus, celui de supervision et de vérification du cessez-le-feu, ainsi que l'accord cadre de Doha pour un accord de paix global. Concernant les détenus, le mécanisme affiche un score de mise en œuvre de 25%, mais nuance les rapports si l'on considère les 477 personnes identifiées par les parties comme éligibles. Pour le compte de l'AFCM-23, seuls 15 détenus ont été libérés, soit un taux d'exécution de 3,1%. Le mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu atteint, lui, 13,3%, indique le baromètre des accords de paix en Afrique. Il estime que sa pleine opérationnalisation reste freinée par des difficultés liées notamment à la désignation des représentants, aux procédures et au déploiement des équipes. Néanmoins, une première mission de terrain dans le cadre du mécanisme conjoint de vérification élargie plus a toutefois été menée à Minembwe le 24 août 2026. Par ailleurs, l'accord cadre de Doha affiche un taux de mise en œuvre de 16,7%. Sur les 8 protocoles prévus, 2 ont déjà été conclus et intégrés à l'accord, tandis que les 6 autres restent en négociation. Le rapport relève plusieurs obstacles, notamment la persistance de la méfiance entre les parties, la poursuite des hostilités, la lenteur des négociations et les retards dans la libération des détenus. Il évoque également les difficultés humanitaires et socio-économiques, ainsi qu'une coordination encore insuffisamment formalisée entre les processus de Doha et de Washington entre la RDC et le Rwanda. Malgré ce faible niveau d'exécution, le baromètre des accords de paix en Afrique note quelques avancées. Il cite notamment la mise en œuvre des principaux mécanismes juridiques et institutionnels, les consultations de Montreux en avril et août 2026, ainsi que l'implication croissante des États-Unis, de l'Union africaine, du Qatar, du Togo, de la Suisse, de la CIRGEL et de la MONUSCO dans les efforts de paix.
Merci à vous, Expedi Kialo. Entre-temps, une pétition en circulation demande au gouvernement de la RDC de revoir sa mesure suspendant les activités académiques dans certaines institutions de Bukavu et à Goma et l'AFCM-23 de retirer ses actes de nomination pris le 29 mai, le 25 juin et le 7 août 2026. Disponible sur les plateformes numériques, cette pétition est initiée par les collectifs des enseignants, chercheurs, étudiants, cadres scientifiques et intellectuels des villes de Bukavu et Goma. À travers cette pétition, les signataires veulent obtenir la sanctuarisation absolue du cadre universitaire et appelle à la responsabilité des autorités, chacun selon son mandat pour obtenir les retraits des actes décriés. Le souci est de sauver l'enseignement supérieur et universitaire pour la l'année académique 2026-2027, indiquent les initiateurs. Écoutons à ce sujet Emmanuel Fizi, un des membres du collectif à la base de cette pétition et assistant au département de sociologie de l'Université officielle de Bukavu-Yobe.
De manière globale, il faut saisir que l'initiative tient compte de l'intérêt supérieur des étudiants et donc aussi des universitaires, s'il faut ainsi le dire. À notre niveau, comme communauté scientifique, comme intellectuel, renseignant, étudiant, donc ce collectif de personnes instruites avons estimé important de pouvoir lancer cette pétition avec des recommandations vraiment concrètes aux différentes parties, notamment à l'AFCM23 et au gouvernement. Le premier, c'est la sanctuarisation de l'université et des universités. Parlons donc des établissements de l'ESU et nous voulons ici dire que les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire doivent rester neutres dans la guerre qui se tient aujourd'hui. Autrement dit, ce ne sont pas des lieux de politisation. Voilà, c'est la première recommandation que nous lançons et à l'AFCM23, et nous lui avons même demandé concrètement de pouvoir retirer ses décisions de nomination. À Kinshasa, nous avons recommandé principalement au ministère de l'ESU et recherche scientifique de pouvoir revoir sa mesure de suspension des activités dans les universités parce qu'une suspension qui prend ne serait-ce qu'une semaine entrave l'ensemble des activités.
Cette pétition vise à récolter d'ici la fin de la semaine en cours au moins 100 000 signatures, conclut notre source. L'intégralité de son intervention à suivre ce vendredi 11 septembre 2026 dans la rubrique Parlons-en. Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, donc renforcer les capacités des journalistes et des membres des clubs de lecture dans la vérification de l'information et la lutte contre la désinformation, c'est l'objectif d'une formation organisée à Bukavu par les souverains libres. Cette formation réunit 12 participants, dont 9 membres des clubs de lecture et correspondants ruraux et 3 journalistes des souverains libres. N'est-ce pas Hélène Boudjiriri?
Pendant des jours, les participants sont outillés sur les techniques de vérification des informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Ils apprennent à identifier les sources fiables, recouper les faits et vérifier les textes, images, vidéos et autres contenus avant leur diffusion. Pour la directrice du souverain libre, Claudine Lonvi, cette formation vise à renforcer les compétences des participants face à la multiplication des contenus non vérifiés. Elle revient sur les attentes de cette session.
Nous avons constaté qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place importante dans l'accès à l'information. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a des fausses informations, mais il y a aussi des bonnes informations. Parce que s'il y a des fausses informations qui circulent et qui ne sont pas vérifiées sur les réseaux sociaux, ça peut influencer la perception des populations et alimenter la peur et la méfiance, mais aussi compromettre les efforts visant à promouvoir une information fiable, responsable, en contribuant à la cohésion sociale. Alors c'est pour améliorer leurs pratiques de collecte, de vérification et de traitement de l'information que nous avons organisé cette formation.
La formation porte également sur le traitement des sons et l'écriture radiophonique, a précisé la directrice du Souverain Libre. Les participants sont ainsi initiés aux techniques des prises et des traitements audio, mais aussi à l'écriture adaptée aux exigences de la radio et des plateformes numériques. Philomène Bikouba, membre du club de lecture du Souverain Libre Katana et participante à la formation, explique ce qu'elle retient des techniques apprises.
Nous sommes très ravis d'apprendre comment faire les techniques de reportage sur terrain. Nous avons appris comment on peut canaliser l'information, comment on peut les personnes de contact et surtout comment on peut relayer les informations avant de les vérifier et surtout de ne pas se baser sur les réseaux sociaux.
Cette formation de 2 jours se clôture le vendredi 11 septembre 2026. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Journal indépendant, outil d'éducation populaire pour la consolidation de la démocratie, mis en œuvre par les souverains libres avec l'appui technique et financier de Wallonie-Bruxelles International, en partenariat avec IEX et Solidarité Santé Sud.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maëdeléo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Et en sport, le FC Les Aigles du Congo affronte ce vendredi 11 septembre à Kigali, capitale du Rwanda, l'armée patriotique rwandaise APR en match retour du premier tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Vainqueur à l'aller sur les scores d'un but à zéro, les Aigles abordent ce match avec un avantage à consolider. Ce match est prévu au stade Amahoro à partir des 18h heure de Kigali, même heure à Bukavu. Juste après la rencontre, les Aigles du Congo comptent retourner directement en RDC à bord d'un vol affrété pour la circonstance. Cette opposition s'annonce rude entre les deux équipes à la quête d'une qualification pour les prochains tours de la compétition. Le contexte politique tendu entre la RDC et le Rwanda apportera également un piment à cette rencontre. Pour rappel, le match aller s'était déroulé au stade de Frédéric Kokibasa Maliba de Lubumbashi sans la participation des fanatiques sur décision du Conseil de sécurité de la province du Haut-Katanga. En revanche, le match retour se disputera avec le public.
La revue de presse. Radio Mindelo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous, Hélène Boudjiriri, différents messages lancés à l'occasion de la journée de la prévention du suicide et les perturbations observées en ce début de la rentrée scolaire 2026-2027 font partie des sujets publiés par la presse locale jeudi 10 septembre 2026.
Débutons avec la journée de la prévention du suicide avec Jambo RADC. Ce média écrit qu'à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, célébrée le 10 septembre 2026, des voix s'élèvent au sud que vous pour appeler la population à prendre soin de sa santé mentale, malgré les nombreuses difficultés auxquelles elle fait face. Parmi ces voix, celle de Barthélémy Akouze Bounadi, psychologue clinicien et président provincial de l'association Stop au suicide, qui invite les personnes confrontées à des moments difficiles à ne pas rester seuls avec leurs problèmes. Selon ces professionnels de santé mentale, l'accumulation des difficultés peut affecter l'équilibre psychologique d'une personne. Il encourage ainsi chacun à rester attentif à sa santé mentale et à chercher du soutien lorsque les épreuves deviennent difficiles à supporter. Il insiste particulièrement sur l'importance du dialogue et du soutien de l'entourage. Il appelle les personnes confrontées à une souffrance psychologique à éviter l'isolement et à se confier à quelqu'un en qui elles ont confiance, Jambo RDC. Éducation. La prunelle RADC revient sur la rentrée scolaire 2026-2027 qui reste perturbée dans plusieurs secteurs du territoire des Fizi, près de 10 jours après la reprise officielle des cours. Selon l'administrateur du territoire cité par ses médias en ligne, Sami Kalonji Badibanga, des affrontements dans plusieurs zones de l'entité ont empêché de nombreux élèves et enseignants de regagner leurs établissements. D'après l'autorité territoriale, la situation sécuritaire demeure particulièrement préoccupante dans certains secteurs où des combats opposeraient les FARDC appuyés par des groupes Wazalendo à des combattants de la FCM-23. La prunelle poursuit que les élèves ayant fui leur milieu d'origine lors des affrontements ne sont toujours pas en mesure de regagner leur localité. Certaines écoles seraient encore occupées par des personnes déplacées internes, tandis que d'autres auraient été détruites ou endommagées depuis le 2 juillet 2026. La situation affecte également les personnels enseignants, précise la prunelle RDC. La crise sécuritaire continue également d'avoir des conséquences humanitaires. L'administrateur du territoire estime à environ 10 000 le nombre de personnes déplacées internes à Fizi, tout en affirmant que leurs conditions de vie restent précaires. Terminons avec ST News, qui reste dans le même secteur. À l'occasion de la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques, célébrée le 9 septembre, le mouvement citoyen Machozi Araïa, contacté par ST News, appelle à une mobilisation collective pour préserver l'accès à l'école des enfants vivant dans les zones affectées par les conflits et les violences en RADC. Ces médias notent que, dans une déclaration rendue publique à cette occasion, le mouvement déplore les conséquences des violences sur les systèmes éducatifs. Des milliers d'enfants voient leur scolarité interrompue, tandis que certaines écoles sont endommagées ou transformées en abri pour des personnes déplacées. Les enseignants, de leur côté, continuent d'exercer dans des conditions particulièrement difficiles. Face à cette situation, Machozi Araïa invite les autorités, les acteurs armés, les organisations humanitaires, ainsi que les communautés à considérer la protection de l'éducation comme une responsabilité collective.
Un communiqué avant la fin de cette édition du journal, le producteur de l'émission Musique Waki Christo Limwenguni des radios Maindele invite les présidents de groupes musicaux chrétiens indépendants, les artistes et musiciens gospel des carrières solo et les présidents des chorales de prendre part à une réunion organisée à leur intention au bureau de l'AMCC 6 Avenue Kindu numéro 33 en face de la régie des eaux-villes ce dimanche 13 septembre 2026 à partir de 14h. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence et le respect de l'heure pour tous sont vivement souhaités. On s'y fait à Bukavu les 10 septembre 2026. Tchaga Mubalama, opérateur culturel et producteur de l'émission, signe ses communiqués. Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle d'Alanzar au microphone pour la présentation. C'était bien moi, Omer Moudekereza. Au revoir.